Bonsoir à tous et à toutes. 295 milliards d'euros d'ici 2025. C'est un effort inédit dans le contexte budgétaire que nous connaissons, d'après le chef de l'État. La loi de programmation militaire a été présentée ce matin en Conseil des ministres et la ministre des Armées, Florence Parly, a été auditionnée dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Les députés doivent commencer à débattre le 12 mars prochain avec cette loi de programmation militaire. Est-ce vraiment une page qui se tourne? La promesse d'une relation apaisée entre l'exécutif et l'armée, est-ce, comme le dit l'exécutif, un effort inédit? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Pauline Tapin reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho, ce soir en plateau avec nous, les spécialistes, ce sont Jean-Jacques Bridet, président de la commission de la défense, député La République En Marche du Val-de-Marne, qui a auditionné cet après-midi donc la ministre des Armées, Florence Parly. Bonsoir Jean-Jacques Bridet. Nous sommes aussi avec François Cornut-Gentil, député Les Républicains, ne pas se tromper.
Mais les Républicains sont en marche, je peux dire.
Député Les Républicains de la Haute-Marne, rapporteur spécial des crédits défense à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi avec Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur Les Républicains de la Meuse, Alexandre Papa-Emmanuel, directeur pôle défense du think tank Léthéri, maître de conférence à Sciences Po Paris et directeur rencontre chez Sopra Steria, spécialiste de la transformation numérique. Et puis nous sommes aussi avec Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie chez Orange Cyber Défense. Alors on a un chiffre, 295 milliards d'euros sur la période 2019-2025. La loi de programmation militaire, en fait, c'est la façon dont seront dépensés ces 295 milliards d'euros. En 2025, la France doit dépenser 2% de son PIB pour sa force militaire. Alors l'exécutif annonce deux temps, avant 2023 et après 2023. 6 000 recrutements sont prévus, par exemple, d'ici à 2023. Avant d'entrer dans le décryptage et le débat, je vous propose d'écouter la ministre des Armées, Florence Parly.
Le renouveau de nos armées commence. Dans ce monde, la France doit tenir son rang. Une défense forte, c'est l'assurance de notre sécurité et de notre liberté. Des armées puissantes, c'est garantir que la voix de la France sera écoutée, entendue, respectée.
Voilà donc la ministre Florence Parly pendant la conférence de presse qui a suivi la présentation du texte en Conseil des ministres ce matin. Cet après-midi, Florence Parly a été auditionnée, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Bridet, vous êtes le président de la commission de la défense qui a auditionné Florence Parly cet après-midi. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé. D'abord, il y avait plus de 50 députés dans la salle, dont mon voisin, François, qui siégeait au nom de la commission des finances. Et vous disiez que c'était une loi inédite, mais il y a plusieurs choses.
Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron.
Il y a plusieurs choses qui sont inédites. D'abord, c'est le temps d'élaboration. En 9 mois, il a été fait une revue stratégique et il a été fait la loi de programmation militaire. Avant, on mettait presque 18 ou 24 mois pour courir ce temps-là. Donc ça arrive devant le Parlement. À partir de ce matin, le 12 mars, ça passera en commission, le 19 mars devant l'hémicycle, dans l'hémicycle, et donc c'est le temps parlementaire. Et je souhaite que le temps parlementaire se finisse en juillet, fin juin 2018, juillet. Et donc nous aurons fait en 14 mois une revue stratégique pour que l'analyse de la France sur les menaces, les risques, la situation internationale soit bien précisée, que ses ambitions soient précisées, reprécisées, et que à partir de ces ambitions, ces menaces, ces risques, ces analyses, il y ait une montée en puissance de l'effort au profit de la défense et de la sécurité, une montée en puissance qui va vers les 2% qui sont annoncés avec plusieurs étapes.
2% du PIB en 2025.
Des étapes de rendez-vous, que ce soit des étapes d'accélération. Et donc c'est tout ça qui est contenu dans cette loi.
C'est la méthode de cet exécutif, aller vite, oui.
Ça s'est bien passé parce que les députés de l'opposition sont polis.
François Cornut-Gentil.
On n'a pas agressé Madame la Ministre, qui a effectivement bien progressé en termes de sens de la communication. Moi, je pense que ces 2% dont on parle beaucoup depuis la présidentielle, c'est une opération un peu habile pour cacher qu'on ne fait pas l'effort autant qu'il le fait.
Tout le monde est d'accord pour le 2%.
Tout le monde est d'accord, mais justement, les difficultés, c'est que nos armées sont confrontées à des besoins immédiats. Et donc, de dire, on vous donnera beaucoup, mais vraiment beaucoup en 2025, c'est une façon de faire attendre. Et je dirais, par provocation, et pas seulement par provocation, parce que je crois que c'est, en dépit des apparences, la réalité, on croit qu'on a un plan de relance pour la défense. En réalité, c'est un tour de vis quand on y regarde de plus près. Et comme c'est pas ce qui est perçu immédiatement, c'est assez habile.
Tu ne peux
je
pas
pense
dire
que
ça,
des désillusions François. Seront assez fortes dans on, les années qui viennent.
Jean-Jacques Bridet.
Quand on consacre 1,7 milliard tous les ans supplémentaires à chaque année, c'est-à-dire qu'à la fin du
c'est 1,7 milliard jusqu'en 2023, puis 3 milliards par an en 2023, 2024, 2025.
Et parce que nous avons des respects pour certaines autres lois de programmation, dont celle des finances publiques qui a été votée par le Parlement et qui veut la réduction du déficit.
Ah, en même temps, François,
et donc effectivement, il y a une marge de 1,7 milliard qui avait été annoncée par le président de la République dès la campagne. Et qu'après, il y aurait une accélération et il y aura un rendez-vous pour qu'en 2021, on regarde si l'état de nos finances publiques, l'état budgétaire, peut permettre et doit, le permettra d'avoir cette accélération.
François, si on est gentil, on va passer la parole aussi aux autres autour de la table.
Qu'il y a une élection présidentielle en 2022 et que les marches vraiment importantes à franchir, elles sont après 2022.
On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais tout d'abord,
tu as soutenu des lois de programmation militaire
Alexandre
qui
sont en réduction
d'effectifs et en réduction de budget. Alors,
on aura l'occasion d'y revenir. Alexandre Papa-Emmanuel, est-ce que pour vous, cet effort est inédit, comme le dit Emmanuel Macron, hein, je le rappelle, près du think tank Léthéry.
Il était en fait indispensable. On dit depuis ce matin que Jupiter aurait entendu Mars. Il était peut-être même obligé de l'entendre, puisque c'est vrai que les armées sont exsangues. L'outil militaire est stressé par de nombreuses opérations. Les cycles aussi de renouvellement, de régénération du matériel militaire est tendu, plus que tendu. Et c'est vrai qu'après une séquence qui a été une séquence assez dure, je crois, pour les armées, avec la démission du général De Villiers, avec des échanges autour des 850 millions qui ont été annulés après un dégel, on arrive dans un moment où l'exécutif et puis aussi la mise des armées est en train de lancer, c'est vrai, une phase de reconquête au profit des armées, une reconquête qui était vraiment indispensable aujourd'hui dans un moment de confiance. Alors je pense pas que ça soit inédit, c'est vrai qu'on est dans un moment aussi particulier, puisque avant les contextes économiques étaient beaucoup plus tendus, crise des subprimes, aussi crise de l'euro.
Et là, donc, on est dans un contexte plus évident, et effectivement, pour mener ce genre de...
Oui, sans doute.
Pour augmenter ses budgets.
Et évidemment, on est aussi dans un moment où on est dans une LPM qui a déjà fait des choix.
Loi de programmation militaire, LPM.
Effectivement, avec aussi un monde qui se remilitarise, la ministre l'a rappelé, un monde aussi dangereux. Et donc, pour que la France tienne son rang, il faut réinvestir un certain nombre de sujets, dont la dissuasion, qui s'impose aussi au budget et qui va aussi avoir un effet d'éviction sur d'autres programmes, parce qu'il va falloir renouveler un certain nombre de matériels. Et donc, la question des 2%, c'est un vrai défi. Je ne suis pas que critique, je reconnais aussi que cette LPM a un vrai défi, parce qu'elle a été faite dans un temps très court. C'est un document qui a nécessité beaucoup d'implication de nombreux acteurs.
Que nous disait Jean-Jacques Bridet, oui.
Qui permet aussi d'être beaucoup plus saine, puisqu'il n'y a plus de ressources extérieures, de ventes à l'export. Donc, on peut aussi reconnaître qu'il y a un travail...
Ce sont des crédits à la hausse. Ce sont des effectifs à la hausse, alors que les différentes LPM précédentes avaient des fermetures de base, des réductions de nos capacités, etc.
Des réductions d'effectifs, oui.
Etc. Et de budget. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'on a une LPM avec des crédits qui augmentent, ne boudons pas notre plaisir, même s'il y a sûrement des choses à améliorer, des choses à critiquer. Mais ne disons pas que c'est du pis-aller, etc.
J'aimerais avoir la réaction de Gérard Longuet, donc ancien ministre de la Défense, sur cette loi de programmation militaire donc qui va de 2019 à 2025. Oui, est-ce que c'est inédit, d'après vous ?
Il y a plusieurs observations. La première, rendons hommage, en effet, vous l'avez évoqué, au coup de gueule et à la démission du général Pierre de Villiers, chef d'état-major. Je pense que le président de la République a mesuré que l'on ne pouvait pas traiter à la légère ce sujet et son sacrifice personnel aura été utile. Article 1. Article 2, la vraie question est de savoir quelle est la menace et quelles sont nos ambitions d'intervention. Et je trouve que sur ce sujet, on est encore un petit peu court. Vous parlez d'un monde qui se réarme, c'est vrai, mais quels sont nos adversaires et quelle est notre responsabilité, en particulier en Europe, et en Afrique. Ce sont les et en Méditerranée, naturellement, trois théâtres qui sont de nature extraordinairement différents et qui demandent d'ailleurs des moyens différents. Moi, pour ma part, je me réjouis de cette annonce. Et François Cornet-Gentil a eu tout à fait raison de dire, faut voir si les chiffres sont là. Mais s'ils n'étaient pas annoncés, nous aurions la certitude qu'ils ne seraient pas là. Le fait qu'ils soient annoncés nous donne l'espérance qu'ils viendront. Maintenant, moi, je suis un parlementaire confirmé. Et je m'adresse au président de la Commission et au porteur du jugement sur le budget de la Défense. Vous allez avoir un travail formidable à faire, parce qu'il faut rentrer dans le détail. C'est pas tout de dire plus 1,7 milliard pendant 5 ans et 3 milliards pendant chaque année. Il faut savoir où ils iront. Alors, on a un petit signal, la cybersécurité. Je pense que vous en parlerez plus avec plus de compétences.
On va en parler avec Nicolas Arpajon, bien entendu.
Il y a en effet le renseignement, qui est assurément quelque chose d'essentiel. Après, ça devient un petit peu plus flou depuis, et c'est bien normal, mais c'est le rôle du Parlement, permettez-moi de dire. J'adore Jupiter, mais Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre, et donc il faut rester avec beaucoup de sang-froid et faire notre travail de parlementaire, entrer dans le détail de la mise en œuvre de ce budget, en formulant le vœu que les élections de 2022 qui viendront, et que la conjoncture française permette en effet à cette majorité de tenir un pari qui est sympathique, mais qui n'est qu'un pari à cet instant.
Jean-Jacques Bridet, vous vouliez réagir?
Et tous les objectifs, qu'ils soient capacitaires, qu'ils soient humains en termes de personnes, qu'ils soient industriels, sont chiffrés. Attendez, les calendriers qui sont
la succession, sont juste une question pratique, la succession du Charles de Gaulle, vous la voyez comment?
La succession du Charles de Gaulle, il y aura les études qui seront menées dans ce quinquennat, et à partir
mais c'est
de
pour
2030...
Quand
parce que cette loi de programmation militaire,
c'est pour quand
elle s'appelle Ambition 2030.
Du Charles de Gaulle.
Ça sera dans les années 40, il sera prêt.
Eh ben, voilà. Vous mettez 10 ans de moins et vous êtes plus près de la réalité.
Mais pourquoi vous voulez mettre 10 ans de moins?
Parce qu'il ne tiendra pas jusqu'en 2040, c'est
aussi
simple que cela.
Aujourd'hui, il est prévu entre 2040 et 2046, le porte-avions actuel. Aujourd'hui, la priorité, c'est les conditions de vie de nos soldats et de leurs familles. Ce sont les conditions d'entraînement, c'est leurs petits équipements de protection, d'agilité, etc. au combat, ce sont leurs équipements de mobilité.
Combat
c'est
d'infanterie,
tout ça qui
vous
est,
avez
qui
raison,
est important.
C'est important.
Et il faut accélérer. Scorpion, par exemple, va accélérer.
Absolument.
En 2025, ça sera 50%
absolument
de la cible qui sera atteinte. Et j'espère que le Parlement, quelle que soit la formation politique, sera d'accord pour accélérer certains de ces équipements, même si nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur l'ensemble du texte.
Il
y a des éléments sur lesquels nous devons être d'accord.
Gérard Longuet,
parce que c'est la protection de nos soldats.
Il faut rentrer dans le détail, oui, des missions. Quelles sont les missions que la France s'assigne? Qui sont nos adversaires? Quelle est la hiérarchie des menaces? Notre objectif est-il d'intervenir sur tous les foyers sensibles? Notre objectif est-il de répondre présent à toutes les demandes des Nations Unies? Notre objectif est-il de prendre en charge tous les risques de toute l'Europe?
Où sont les priorités? Et où sont les priorités, Jean-Jacques Bridet? Où sont les priorités? Et est-ce que, effectivement, les axes sont bien clairs? Il y a quatre axes qui ont été précisés aujourd'hui par l'exécutif. Les hommes, vous l'avez souligné, la modernisation des armements, l'autonomie stratégique et l'innovation, on l'a laissé entendre. La cyberdéfense est un axe important de cette loi de programmation militaire. Enfin, important, je me le demande, 1,6 milliard d'euros. Est-ce que c'est un budget qui paraît suffisant pour les enjeux, Nicolas Arpajon, d'Orange Cyberdéfense?
La question de la cybersécurité, elle se pose. Pourquoi? Parce que dans tous les équipements que vous venez d'évoquer, que ce soit les systèmes d'armes, que ce soit les porte-avions présents ou futurs, que ce soit il y a de la cybersécurité, parce que effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de doute le jour où un ordre est donné que l'équipement va bien fonctionner et que la cible qui est visée soit bien la bonne. Donc, il va falloir mettre de la cybersécurité partout. Ça, c'est la première chose en termes d'équipement.
Est-ce que vous avez l'impression que l'effort qui est fait, 1,6 milliard d'euros d'ici 2025,
Alors,
c'est
somme,
suffisant?
En fait, déjà, c'est
on reviendra
d'esprit.
Dans le détail après.
Justement, et c'est pour ça, ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Le fait qu'on assume, le fait qu'il faut investir le champ de la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on risque, il faut réduire notre dépendance numérique. Le fait que, effectivement, on ne puisse pas forcément compter sur des technologies. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, investir la formation. Et là, le fait qu'il faut des personnels, parce qu'il faut de la technique, mais il faut également des êtres de chair, de sang, qui aient des têtes bien faites pour opérer ces systèmes.
Donc, 1000 recrutements, visiblement.
Alors, pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il va falloir trouver ces personnels. Pourquoi? Parce que ce sont des profils que le secteur privé cherche également et qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, il va falloir... Et c'est d'ailleurs un mot... Alors, après, la question de la rémunération...
La question de la rémunération, vous avez raison.
Et par contre, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, nationale, Louis Gauthier, a une expression en disant, voilà, en fait, l'approche cyber, elle est aussi collaborative. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est une dans le caractère inédit que vous mentionniez au début, c'est effectivement le fait que les entreprises peuvent à la fois être cibles des attaques et créer des déstabilisations. On sait que la sécurité économique depuis l'ordonnance de 1959 fait partie évidemment de la sécurité nationale, mais que il va falloir une participation des entreprises et surtout que si elles sont fragilisées, amplifie une crise à l'intérieur d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle, alors effectivement, dans le cas d'Orange et d'Orange Cyberdéfense, ce qu'on a fait, on s'est dit, en tant qu'opérateur, en fait, le système d'information, les tuyaux, c'est ce qui irrigue la technologie qui est partout. Et donc, il va falloir mettre de la sécurité dedans. Et c'est vrai que cette loi de programmation militaire arrive au même constat qui avait été fait effectivement dès 2015 par Stéphane Richard, de dire, effectivement, il faut impliquer les opérateurs télécoms pour diffuser de la sécurité en alliance avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec hausser le niveau de protection, parce que la protection accrue fait partie de la défense. Et c'est là où les notions stratégiques doivent être prises en compte, c'est-à-dire en protégeant mieux, en informant mieux les entreprises, tous ceux qui sont irrigués par les systèmes d'information, on réduira l'exposition
donc
au risque.
Donc pour vous, c'est inédit à ce niveau-là.
Absolument, parce qu'on a cette approche collaborative qui, en fait, commence à fondre en fait, l'idée que des intérêts stratégiques, c'est pas c'est militaire, c'est civil, mais c'est aussi économique, et il faut protéger la collectivité, le tissu économique, pour qu'il ne soit pas fragilisé.
Alexandre Papaimanov.
En même temps, et c'est, je crois, ce qui revient souvent, en même temps la dissuasion, en même temps le renseignement, en même temps la coopération, en même temps l'autonomie stratégique.
Vous avez l'impression que les axes sont bien définis,
on embrasse quand même assez largement.
Bons objectifs.
Mais le vrai défi, la cyber, c'est pas nouveau, le renseignement, c'est pas nouveau. Ça a été des priorités. Il y a une volonté de rééquilibrer maintenant la fonction connaissance et anticipation. Le vrai défi, c'est l'enjeu de numérisation, finalement. C'est cet enjeu de souveraineté numérique. C'est ce que vous avez évoqué, une souveraineté qui ne se partage pas. Et je crois que cette LPM force cet axe en disant, mais il faut qu'on soit autonome. La cyber, ça a déjà été évoqué sur la précédente LPM. Il y a eu la création du Comcyber, une vraie montée en puissance, 3000 hommes, des moyens qui se mettent en place.
Et là, on passerait de 3 à 4 avec cette loi de programmation.
Oui, mais donc, ce n'est pas forcément une vraie rupture.
30% en plus.
Oui, mais c'est pas une rupture, c'est dans la continuité.
C'est une amélioration.
La vraie rupture, je pense, de cette LPM, c'est la numérisation. Avec un défi, ce que permet aussi les technologies numériques, c'est une innovation plus rapide. Et je pense que ça va être un défi de cette LPM. La ministre s'en est emparée. Et donc, il va falloir aussi mettre les différents corps militaires, la DGA, les industriels, au diapason de cette innovation, avec des boucles beaucoup plus courtes, pour servir évidemment les opérations sur le terrain, pour préparer la guerre de demain, pour ne pas défaillir face à un ennemi qui est ultra numérisé, qui impose ses normes, mais aussi pour créer un écosystème souverain qui peut du coup être robuste.
Permettez-moi de vous interrompre sur un point.
Gérard Longuet,
la plupart de nos ennemis ne sont pas hyper numérisés. Et notre intention n'est pas de faire la guerre aux États-Unis d'Amérique, ni même à la Chine, ni même au Japon. En revanche, là vous avez raison, c'est que la numérisation du combattant, je prends un exemple extrêmement simple, le chef de section qui peut avec son drone commander un tir à un soutien qui peut être aérien ou d'artillerie, si la chaîne de la circulation d'information est parfaite, il est extraordinairement opérationnel et j'ajoute, il peut le faire tout temps, y compris de nuit, ce qui lui donne un avantage sur un combattant qui, lui, est un combattant primitif, mais parfaitement déterminé. Bon, donc, le vrai problème, c'est d'être parfaitement opérationnel. Mais ça dépend de nos adversaires, car je vous rappelle que l'armée a une fonction, c'est de détruire des combattants. De détruire des combattants, et aussi, parce que nous faisons des guerres politiques, d'occuper des terrains et d'apporter le début du commencement d'une solution. Et c'est la raison de toute la complexité du système militaire et la formation de nos cadres, de nos sous-officiers et de nos combattants qui ne peuvent pas être simplement des tueurs.
Alors, il faut François qu'ils soient des Gentil. Tueurs
et il faut qu'ils soient des êtres humains.
François
Je voudrais revenir effectivement sur cette question. Est-ce que l'effort est inédit ou pas?
Et est-ce qu'1,6 milliard d'euros, puisqu'on en parle,
de quelle
est-ce
manière
suffisant?
Il est inédit sur le point financier, pas technologique. Sur le plan financier, oui et non. C'est-à-dire, il y a eu déjà un effort de rattrapage très important lors du second mandat de Jacques Chirac. Là, et la marche était à peu près comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est en revanche, les premières marches en tout cas, ce qui est inédit, c'est l'effort de 3 milliards en 2023
et 2024.
Je voudrais indiquer à la fois que cet effort annoncé est inédit et en même temps qu'il est très fragile, sans être un oiseau de malheur.
Il n'est pas certain.
Il est fragile pour quantité de raisons. Il est fragile pour la première raison qu'indiquait le président de la Commission de la Défense. La révision, une loi de programmation militaire, c'est, on affiche, le gouvernement, l'État dit, écoutez, l'armée, c'est très important pour nous. Nous, voilà ce qu'on veut faire.
C'est mieux
si
que
je puis dire.
Contraire.
Quoi qu'il arrive, l'important d'une loi de programmation militaire, c'est de dire, quels que soient les aléas, la défense est tellement important pour nous, quand on a voulu constituer la force atomique en France, voilà. Quoi qu'il arrive, on tiendra cette ligne. Or, cette LPM, elle dit pas du tout ça.
Si.
Elle dit, en fait, on se reverra en 2021, et les choses se passeront comme ça, si, globalement, on tient les déficits publics, si la croissance est bonne, etc. Et donc, on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'affirmation qu'on tiendra la trajectoire quoi qu'il arrive. Au contraire, on indique que si c'est plus difficile.
On est dans l'expectative, d'après vous.
On est dans l'expectative. Donc, tout ça est assez.
Je voudrais revenir. Parce que
vous allez répondre, Jean-Jacques Bridet.
Jean-Jacques Bridet. Attendez. Quand le président de la République s'est engagé sur les 2% en 2025, il l'a fait dans le même temps où il annonçait une.
Je rappelle que c'est le Parlement
qui a fait le budget. Où il a fait une prévision sur l'évolution du PIB. C'est ce qu'on a appelé son travail sur la croissance. Bon. C'est-à-dire que nous, on parie qu'en 2025, 2% correspondront à 50 milliards. Donc aujourd'hui, on peut pas en être sûr parce que le monde bouge tellement. Mais en 2021, on aura plus de visibilité pour savoir effectivement si en 2%, les 2% correspondront à 50 milliards. Parce qu'il faut 50 milliards. Ça correspondra peut-être à 1,8, ou ça correspondra peut-être à 2,2%. Mais les 50 millions, ils seront
là. Pour vous, c'est cohérent.
Les 50 milliards, ils seront là. Pourquoi il nous faut 50 milliards? Parce qu'aujourd'hui, nous avons à protéger mieux nos soldats, à leur donner plus de confort dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions d'entraînement, plus de sécurité dans l'exercice de
leur mission. Justement, je voulais en parler parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début, pardon Jean-Jacques Bridet, mais des hommes, parce que c'est là-dessus que l'exécutif appuie. Vous en avez parlé, bien sûr.
Les autres peut-être pas, mais moi j'y.
On a beaucoup parlé aussi de cyberdéfense parce que les deux enjeux visiblement sont très importants. Les hommes, je voulais en parler notamment, il y a eu au tout début de quinquennat, on se rappelle, il y a eu cette polémique il y a plusieurs années aussi sur les soldes versés aux soldats parce qu'il y avait un problème de logiciel, le logiciel Louvois qui s'apprête à être remplacé au printemps prochain par Source Solde qui est mise au point par Soprasteria. Soprasteria, vous travaillez pour Soprasteria aussi, Alexandre Papaemmanuel. Où en est ce logiciel? Est-ce que effectivement, c'est une des priorités? On le disait, que les militaires soient bien.
Je crois que le vrai défi, et ça a été lancé aussi par la ministre, d'avoir cette LPM à hauteur d'homme. Hauteur d'homme, c'est recentrer sur au-delà des équipements, ce qui fait la force d'une armée.
On parle de consolider ce qu'il y a déjà pour effectivement qu'il y ait du confort pour ces militaires qui en manquent beaucoup.
Et donc, capacité,
un des défis de cette LPM, c'est aussi de pas être dans le glamour. Alors vous avez évoqué la cyberdéfense en disant est-ce qu'il y a assez de budget. Aujourd'hui, un des défis de cette LPM, ça va être aussi d'être sur des équipements de milieu de spectre, des choses qui ne sont pas forcément très glam, loin des satellites ou des choses qui sont très palpables. Ça va être de repenser les infrastructures d'accueil des militaires qui sont mises à rude épreuve aussi avec Sentinel. Ça va être aussi de réinvestir le champ du maintien en condition opérationnelle pour plus de disponibilité. C'est un champ aussi qui a été réinvesti. On redonne à nouveau, on double le budget sur ces sujets-là. Donc on voit une vraie prise de conscience. D'un recentrage en fait de ce budget sur les militaires, c'est plutôt une bonne chose.
Ce logiciel, il va vraiment changer la vie de nos soldats?
C'est pas ce logiciel, et j'en reparlais tout à l'heure, c'est la numérisation qui va changer la vie du soldat, c'est la numérisation qui va changer la guerre, qui va changer le rapport du soldat avec son administration, qui va changer le rapport des familles aussi avec des gens qui sont loin, puisque quand un homme s'engage, c'est toute une famille qui s'engage, et donc le numérique permet aussi ces mises en réseau.
Il sera prêt quand? Il sera prêt au printemps? Ce logiciel, l'attend
pour quand? Écoutez, il est en cours, il y a des premières tests, d'essais.
D'accord, donc ça c'est une solution qui est apportée.
Ce qui vient d'être dit est
François Cornut Gentil, et après on enverra la pub, on se retrouve.
Ce sur l'humain est parfaitement vrai et parfaitement souhaitable. C'était présenté comme là le verre à moitié plein. En réalité, les armées sont confrontées à être telle pression sur les personnels, sur les matériels, qu'elles sont au bord de l'explosion.
Ah oui, mais
et donc, l'argent qui est injecté pour les personnels, si je puis dire, est le minimum pour ça n'explose
pas. Pourquoi on l'a pas fait avant?
Donc, je ne critique personne. Le risque, c'est que ce soit compris comme des moyens supplémentaires.
Pendant 15 ans, on a fermé les personnels. Pendant 15 ans, on a retardé les programmes d'équipement.
Je parlais, mais c'est pas le sujet. Le risque, c'est que ce soit perçu par les personnels comme vraiment un abondement, alors que c'est l'argent nécessaire pour que les armées ne se sentent pas trop mal. En revanche, tout l'effet du financement est repoussé à plus tard, et vous verrez qu'en 2022,
les marges
seront telles que la capacité de notre
on va y revenir dans un tout petit instant. On se retrouve sur le plateau des décodeurs de l'écho juste après la pub. On l'a vu, les débats autour de cette loi de programmation militaire s'annoncent plutôt chaud à l'Assemblée nationale à partir du 12 mars. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Pauline Tapin reçoit les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire et ça peut être animé. On parle ce soir de la loi de programmation militaire 2019-2025 de 195 milliards d'euros d'ici 2025. Annoncé, confirmé par l'exécutif aujourd'hui, la ministre des Armées a présenté son texte en Conseil des ministres, puis elle a été auditionnée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission de la Défense, Jean-Jacques Bridet, est avec nous sur ce plateau. Nous sommes aussi avec François Cornut-Gentil, député Les Républicains de la Haute-Marne, rapporteur spécial des crédits des Défense à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur Les Républicains de la Meuse, Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie chez Orange Cyber Défense, et Alexandre Papa-Emmanuel, directeur pôle défense du think tank Letteri. Merci à tous les cinq d'être avec nous. Est-ce que ce budget est un budget sincère? Lors de ses vœux aux armées il y a quelques jours, le chef de l'État a insisté sur l'idée de sincérisation budgétaire. Je vous propose de l'écouter.
Chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle. Peut-être certains d'entre vous, lassés par les réductions des formats ou les batailles budgétaires des années passées, se sont, en quelque sorte, laissés gagner par la routine d'une certaine méfiance. Ce logiciel-là, dans les conditions budgétaires que la nation consent, il faut l'oublier. Nous n'avons aujourd'hui qu'un mot d'ordre, la confiance retrouvée et l'exigence qui va avec. Cet engagement, il est clair, je le prends devant vous, il s'accompagne d'une exigence qui est tout aussi claire, d'une transparence partagée et d'une confiance restaurée entre tous les ministères. Je veillerai également, avec le soutien du Premier ministre et de la ministre des Armées, et du ministre chargé de l'action et des comptes publics, à une exécution budgétaire à la fois entière et complète, mais également fidèle et sincère.
Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que l'on peut penser que cette sincérisation budgétaire, comme le dit le chef de l'État, va finalement apaiser et que ça apaise finalement les choses entre les différents ministères, hein, ministère des Armées, Bercy, c'était compliqué ces derniers mois, ces dernières années, Gérard Longuet.
Si vous me permettez un petit recul, parce que nous n'avons pas été précédés que par des imbéciles. Et entre 1989, chute du mur de Berlin, et je dirais les révolutions du monde arabe, le printemps arabe de 2010-2011, il y a eu, à l'exception de l'Afghanistan, exception spectaculaire portée à bout de bras par les États-Unis et par l'OTAN, à laquelle la France a contribué, nous avons eu un climat où, au fond, nous ne savions pas quelle était pour nous, Français, la menace, et où un homme relativement respectable, comme Laurent Fabius, parlait des dividendes de la paix. Et en effet, nous avons baissé la garde, parce que, très honnêtement, je pense que si vous aviez été élu à la même époque, vous auriez dit, oui, c'est normal, le pacte de Varsovie ne va pas envahir l'Europe de l'Ouest. Depuis le printemps arabe, on se rend compte que la déstabilisation est totale en Méditerranée, et encore, réjouissons-nous de ce que l'Égypte soit stabilisée et que le Maghreb le soit pour l'instant. Et en revanche, il y a eu une exportation de l'instabilité dans cette Afrique sahélienne, subsahélienne, à laquelle nous sommes très attachés parce que francophones. Bon. Nous avons une situation en Europe de l'Est qui a failli dégénérer totalement. Je vous rappelle simplement que la guerre entre La guerre, l'état de guerre à l'est de l'Ukraine, c'est une réalité et beaucoup de pays européens nous reprochent à nous.
Mais alors aujourd'hui, du coup, Gérard Longuet, aujourd'hui,
et de ne pouvoir rien faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt content que le gouvernement s'engage dans une dépense militaire, mais je suis surtout attentif au pourquoi dépenser de l'argent et pour quel type de conflit nous organisons-nous ?
Alexandre Papa-Emmanuel.
En fait, c'est vrai que c'est la menace qui définit le budget et
voilà,
l'inverse.
C'est la menace qui définit le budget, sachant que malgré tout, les investissements de défense sont tellement lourds et tellement lents dans leur gestation qu'on ne peut pas être dans la discontinuité et l'improvisation.
Alexandre Papa-Emmanuel.
Et donc, il y a un défi. Est-ce qu'on veut être autonome ? Et donc maîtriser son outil militaire, ou est-ce qu'on veut dépendre d'accord de Bruxelles?
Et
donc,
et sur quel point
37 milliards d'euros d'ici 2025 pour l'autonomie stratégique.
Il y a ce défi permanent qui a été posé aussi précédemment. Sur le gouvernement précédent, on s'est dit, on attend, on est un peu exsangue, on attend une clause de revoyure pour voir si ça ira mieux. Là, aujourd'hui, il y a un vrai investissement. Aujourd'hui, agir politiquement, on le fait de façon autonome grâce à l'outil militaire. Quand le président décide d'aller
sur certains théâtres.
Oui, sur certains théâtres, mais en général, c'est l'outil de l'autonomie. Et donc, il y a un vrai défi, un dilemme à bien peser, indépendance financière ou autonomie stratégique. Aujourd'hui, il y a une sincérisation du budget, une sincérité, ça dépend. Avec, c'est vrai, à l'intérieur de ce budget, on le voit, on enlève les ressources extraordinaires, la vente de fréquences, on enlève la dépendance aussi à des ventes à l'export, on ne peut que s'en féliciter.
Il y a un vrai sujet, c'est les opérations extérieures aussi, sur lesquelles je voudrais revenir dans un petit instant. François Cornet-Gentil.
C'est pas clair. Je voulais intervenir.
Effectivement,
on peut lire l'effort de sincérisation du budget, il est réel. Mais on peut le lire à deux niveaux. C'est-à-dire, si on se passe d'un point de vue global, du point de vue, si je peux dire, de Bercy ou du citoyen, il y a l'idée qu'on va maîtriser les comptes publics, sans doute mieux qu'avant. Et donc, elle est en réalité assez cadenassée, cette fois.
Les opérations extérieures seront gérées désormais par le ministère des Armées.
Il y a tout un certain nombre de mécanismes financiers sur lesquels j'entrerai pas.
On passe de 450 millions d'euros à 1 milliard 100 millions d'euros.
Sincériser la trajectoire globale de la France, ça veut donc dire que si la trajectoire de la France dérape, on serrera le budget. C'est la cohérence, c'est le choix du gouvernement. Il est parfaitement cohérent, il partage juste. En tout cas, il existe.
Donc,
il y a une priorité.
Jean-Jacques Bridet.
Sur cette sincérisation. Et on voit d'un point de vue global, c'est satisfaisant. En revanche, pour la défense, c'est une pression, c'est une menace. Et la budgétisation meilleure des OPEX est évidemment, du point de vue budgétaire, tout à fait satisfaisante. Je m'en réjouis en tant que citoyen. Pour les armées, ça demandera de redéployer sur ses propres ressources des moyens nouveaux.
Et donc, Jean-Jacques Bridet.
On parle des mêmes chiffres avec François, mais en tout cas, on a le même document. Moi, je voudrais revenir au livre blanc de 2013.
Ça fait à peine 5
ans. Ça fait à peine 5 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on avait constaté en 2013, c'est complètement dépassé. Parce que les conflits sont plus proches de nos frontières, les conflits sont plus durables, les conflits sont plus dangereux, etc., etc. Donc il a fallu refaire une revue stratégique. Et dans cette revue stratégique, effectivement, on donne les ambitions et les responsabilités que doit avoir notre pays, parce qu'il est membre perdant du Conseil de sécurité, parce que...
Sur la répartition des rôles entre les différents ministères, puisque je vous avais lancé là-dessus...
À partir de cela, on en a tiré les conclusions, puisque tout le monde est d'accord pour considérer aujourd'hui que nos capacités opérationnelles sont à peu près 10, 20, 30% parfois en dessous de ce qui leur est demandé.
J'aimerais bien que le président Bridet réponde à la question qui est posée.
Il faut rétablir cela. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effort budgétaire conséquent, qui a été annoncé avant la campagne, qui a été rectifié parce que en 2018, tu ne l'as pas dit, mais il y a déjà eu 1,8 milliard de plus supplémentaires pour justement qu'à la fin de la LPM qui va finir au 31 décembre, on soit raccord avec le démarrage de l'autre. On pourra démarrer en toute sérénité avec un programme qui concerne les conditions de vie et d'entraînement de soldats, leur agilité et leur sécurité sur le terrain d'opération et des capacités opérationnelles qui sont à la mesure et à l'ambition de...
Où ira se venger Bercy? C'est la question que pose le député européen Arnaud Dangean, spécialiste des questions de défense, qui a piloté la revue stratégique de la défense et de sécurité.
Pourquoi voulez-vous que Bercy se venge?
Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Jean-Jacques Bridet, et après Alexandre.
Bercy a fait une loi de programmation des finances publiques qui sera tenue jusqu'en 2022. Donc en 2022, nous verrons, parce que nous parions que la situation économique va s'améliorer, donc que nous serons dans une période de confiance, d'une période
un pari,
de croissance. Mais c'est un pari, c'est pour l'instant il marche. On va pas dire aux Français quand même en 2022 on aura une croissance nulle, il y aura plus de chômage, etc. Donc il faut quand même porter une espérance, et cette espérance elle est portée aujourd'hui par le gouvernement. Et donc c'est dans ce pari-là que nous faisons, disons en 2021 on sera sûr de la trajectoire de croissance du PIB, et donc on pourra caler effectivement les 2 ou 1,9%, 2,1% pour qu'on atteigne 50%.
Alexandre Papa-Emmanuel.
Gouverner, c'est choisir. Et c'est vrai que la revue stratégique, il faut le reconnaître, a été faite rapidement, mais elle a embrassé tous les sujets en disant qu'ils étaient tous prioritaires. Elle a rappelé que le monde était dangereux. Ça avait été rappelé dans les livres blancs précédents. C'est vrai que sa nouveauté, c'est qu'elle a été faite très rapidement, parfois avec pas d'acteurs parlementaires, ce qui était une nouveauté. Mais donc, elle a posé, en fait, une trajectoire d'un monde dangereux. Et donc, elle a ouvert, finalement, toutes les fenêtres, les portes, même les Velux de la maison armée, en disant, tous les besoins deviennent prioritaires. Et donc, gouverner, c'est choisir. Il a fallu faire des choix. On les retrouve maintenant dans la LPM, avec une ambiguïté. Est-ce qu'on met l'effort au bon endroit, et est-ce qu'il sera suivi, du coup, dans les faits? Parce que là, on est sur une trajectoire, une promesse, qu'on devra retrouver tous
Gérard
les ans.
Gérard Longuet.
Dans le budget ce modèle, juste en 30 secondes, ce
Jean-Jacques
modèle,
Bridet, puis
c'est
Gérard Longuet.
Un modèle cohérent, équilibré, et qui est soutenable dans la durée.
Donc, Gérard Longuet.
Le modèle d'armée qui
pense.
Finira en 2030, qui sera chevauché.
En deux mots, j'aimerais aussi qu'on revienne sur la cyberdéfense sur la fin de cette émission.
Gérard Longuet. La question majeure, c'est quel est notre adversaire? Quel est notre statut? Notre statut, vous l'avez évoqué, Président, c'est d'être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça nous oblige à deux contraintes. La première, c'est de rester une puissance nucléaire. C'est le prix à payer pour avoir un droit de veto.
C'est un point
au Conseil
qui est
de sécurité des Nations Unies.
Parfois
c'est indiscutable. Et sous ces deux formes, la forme aérienne et la forme océanique. La deuxième question est en effet, pouvons-nous entrer en premier dans une opération de maintien de l'ordre? La réponse est oui, mais pas sur tous les théâtres, soyons lucides. Car le monde est dangereux, nous ne sommes pas un pompier universel, nous n'en avons ni la vocation, ni les moyens, j'ajoute, ni l'intérêt. Si demain il y a un conflit majeur entre le Pakistan et l'Inde, je ne vois pas ce que nous avons à faire dans une opération de ce type. Je le dis très clairement.
En deux mots, Alexandre Papa-Emmanuel, et ensuite, reviendrons sur la cyberdéfense.
C'est sur la sincérité, en fait, budgétaire. On dit qu'on donne plus de moyens, c'est vrai. Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interloqué, c'est que ça a obligé, ces moyens, ça a obligé les militaires. Ils sont obligés, maintenant, de faire bon usage de ces fonds publics. Je trouve qu'ils sont déjà dans l'obligation de beaucoup de choses. C'est un métier qui est un engagement plein et entier, qui engage, comme je l'ai dit tout à l'heure, une famille. Et je trouve que cette contrepartie qu'on demande aux militaires d'avoir un bon usage, une image raisonnée de leurs fonds, est un peu particulier. Je pense que cette responsabilité, elle est avant tout politique.
Elle doit être assumée. Non, maintenant, on va passer à la
l'exigence, elle est
rapidement.
Vis-à-vis de tout le monde, y compris les industriels.
On parlait des menaces.
Cyberdéfense, juste un mot. C'est
Nicolas Orpagian, Gérard Longuet, puis on va y arriver.
C'est une affaire qui est absolument collective, qui concerne depuis la recherche jusqu'à l'industrie en passant par l'armée, mais il y a des aspects spécifiques à la numérisation du théâtre opérationnel.
Et c'est ce
dont un peu technique, mais
nous
tous ceux qui
allons
connaissent
parler.
Reconnaîtront l'exigence.
700 tentatives d'attaque contre l'armée française l'année dernière, Nicolas Orpagian de Orange Cyberdéfense.
C'est ce chiffre-là qui montre qu'aujourd'hui, les mouvements, peut-être davantage dans des logiques de guérilla que de guerre, dans des logiques où il n'y aura pas de droit des conflits armés qui s'appliquent, et à l'encontre d'État, lorsque nous avons appris que des partenaires pourtant diplomatiques, amis de la même voisin, posséder
à
nos communications. On voit
bien des Allemands également, d'ailleurs.
Et réciproquement, dans ce cadre-là, on doit prendre en compte cette dimension numérique et cyber. Pourquoi ? Parce que elle est quelquefois impalpable, et donc il faut comprendre que c'est même préoccupant de se dire que l'on peut être victime sans ressentir les caractéristiques justement du fait d'avoir été attaqué. Et donc ça oblige à revoir la notion de préjudice, la notion d'allié, la notion de partenaire, et de voir que justement les forces armées ont des ressources qui sont limitées et qu'il leur faudra s'adjoindre, surtout s'il s'agit de fragiliser des tissus économiques dans des pays développés, des populations, des équipements qui n'ont pas forcément été conçus à l'origine pour être protégés. On crée beaucoup plus de de chaos et de perturbation en créant justement des dysfonctionnements dans les organisations des États et des systèmes
des
systèmes des entreprises que effectivement pour et avec une relative économie de moyens.
Vous travaillez beaucoup avec les entreprises. Est-ce qu'on
et les organisations, les États, et les collectivités locales.
Est-ce que quand on travaille avec l'armée sur ces thématiques-là, comment on travaille? Enfin, est-ce qu'il y a des façons de travailler?
Pour nous, l'armée est une entreprise comme les autres, c'est-à-dire elle a des collaborateurs, elle a une mission, elle a un budget, elle a une préoccupation encore plus légitime de continuité d'activité, et donc il faut collecter des informations, surtout que elle s'équipe pour beaucoup d'activités en fait de logiciels qui sont civils, achetés sur étagère, parce que on ne les développe plus pour elle, ou effectivement ils rendent des services qui sont indifférents dans le monde civil et dans le monde militaire, et donc il faut faire en sorte de créer cette collaboration avec le monde civil, le monde militaire, qui ce sont des mondes qui ont vocation à être de plus en plus poreux. Pourquoi ? Parce que on va souvent attaquer l'un en passant par l'autre, et que ce soit d'ailleurs dans leur dimension personnelle avec des individus, mais également avec des chaînes de prestataires.
Et vous, vous avez l'impression que cette thématique est, pour conclure, bien prise en compte ?
Alors en tout cas, elle est prise en compte.
Militaire.
La décision de la loi de programmation militaire va prévoir des dispositifs, en tout cas après examen et vote par les parlementaires. Mais le fait d'avoir créé cette revue stratégique cyber qui sera présentée en début de semaine prochaine montre en tout cas qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, il va falloir passer de la prise de conscience, de la déclaration d'intention, à la déclinaison opérationnelle. C'est là où effectivement on pourra juger sur les faits.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. On va continuer à suivre effectivement cet enjeu de cyberdéfense. La présentation de cette revue stratégique, donc lundi, elle sera donnée, rendue au ministre Mounir Majoubi. Merci à tous les cinq d'avoir été avec nous dans les décodeurs de l'écho ce soir. Jean-Jacques Bridet, président de la Commission de la Défense, François Cornut-Gentil, rapporteur spécial des crédits défense à la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur Les Républicains de la Meuse, Alexandre Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie chez Orange Cyberdéfense, et Alexandre Papa-Emmanuel, directeur pôle défense du think tank Letteri. Les décodeurs de l'écho reviennent lundi prochain avec Fabrice Lundi. Dans un tout petit instant, c'est Tech & Co. Belle soirée à tous.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.